RFI Matin, 8h42 à Paris. Dans 18 minutes tout juste, nous partons à Tunis en ouverture du journal avec Amira Suilem et l'ouverture prévue des bureaux de vote. Il est 2h42 à Atlanta. Et nous partons aux États-Unis, 30 jours tout juste avant l'élection la plus importante et la plus incertaine de l'histoire récente du pays, la présidentielle américaine, qui se décidera plus que jamais dans sa dernière ligne droite, alors que Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude dans les sondages. Tout se jouera peut-être à une poignée de voix, alors que dans les États-clés qui font basculer l'élection, seulement 4% des électeurs n'ont pas encore fait leur choix, selon les démocrates. Nous partons en Géorgie. Ici, quelques milliers de voix ont fait la différence en 2020. Et pour remporter l'État pivot et ses 16 grands électeurs, Kamala Harris veut miser sur les Afro-Américains. C'est en Géorgie qu'ils sont le plus nombreux et beaucoup se sont abstenus il y a 4 ans. Les démocrates investissent massivement dans les spots publicitaires à la télé et sur le terrain, de nombreuses associations font campagne pour mobiliser cet électorat noir. Reportage à Atlanta, David Thompson.
C'est une opération de porte-à-porte dans un quartier plutôt qu'au sud de la classe moyenne afro-américaine d'Atlanta. Les pelouses sont parfaitement tondues, les maisons toutes alignées à l'identique façon Desperate Housewives. Avec son t-shirt orange de l'organisation We Vote, We Win, sur lequel s'inscrit en majuscule le mot « voter », Caleb, étudiant afro-américain, sonne d'abord à la porte de Mel René qui, une comptable de 67 ans, bien décidée à aller voter le 5 novembre pour Kamala Harris, afin, dit-elle, de restaurer le droit à l'avortement quasiment interdit en Géorgie.
Seule une femme peut comprendre ce qu'il se passe dans le corps d'une femme. Il y a très longtemps, j'ai fait une fausse couche. J'étais à la maison et une hémorragie a commencé. Avec les lois d'aujourd'hui, ils ne m'auraient pas soignée. Je serais sans doute morte. Je ne serais plus là aujourd'hui.
Deux femmes sont mortes en Géorgie, faute de soins après des avortements clandestins. Kamala Harris martèle leur nom à chaque meeting. Ces drames, c'est aussi ce qui motive Emma Royston Cole à voter contre Trump. Mais cette avocate afro-américaine retraitée s'inquiète des dizaines de lois votées par les républicains pour dissuader les Noirs d'aller voter. Sa fille vient justement d'en faire l'expérience.
Ma fille vient juste de recevoir une lettre disant que son bureau de vote avait changé. Or, on vote tous dans cette maison et personne d'autre n'a reçu ça. Voilà ce qu'ils font pour que les gens se trompent de bureau de vote, pour qu'ils arrivent trop tard. Autant de petites choses qui visent à nous empêcher de voter.
Mais pour gagner en Géorgie, les démocrates doivent surtout lutter contre l'abstention des hommes noirs. 30% des Afro-Américains n'ont pas voté en 2020. C'est ce que les commentateurs politiques américains appellent le « gender gap ». Exemple avec Tyler Wallace, à 21 ans, cet agent immobilier est en âge de voter pour la première fois cette année, mais il n'est pas sûr de se mobiliser.
Je ne sais pas, je ne m'intéresse pas trop à la politique. J'ai tellement de choses à gérer en ce moment, la vie, la carrière, tout ça.
Il faut dire que Tyler est encore réticent à l'idée même de voter pour une femme.
J'y réfléchirai à deux fois avant de voter pour une femme. Je pourrais le faire, mais il faudrait que je sois sûr qu'elle ne prend pas ses décisions pour changer le pays sur le coup de ses émotions.
Et dans cette présidentielle, chaque voix va compter pour gagner la Géorgie. En 2020, il avait fallu attendre plus d'un mois et 3 recomptages pour obtenir les résultats définitifs. Une victoire de Joe Biden sur le fil avec moins de 12 000 voix d'avance que Donald Trump n'a jamais reconnu. David Thompson, Atlanta RFI.
En Géorgie, aux États-Unis, notre reportage international à retrouver sur RFI.fr. Ça fait débat avec Wati, le regard chaque dimanche du groupe de réflexion ouest-africain. Bonjour Gélia Bim.
Bonjour.
On revient avec vous aujourd'hui sur un débat que vous avez modéré au nom de Wati, un forum régional de la Banque mondiale au sujet de l'Association internationale de développement. Alors que les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI se tiennent fin octobre, vous nous expliquez en quoi consiste cette Association internationale pour le développement.
Oui, l'Association internationale de développement, plus connue sous son acronyme IDEA, pour International Development Association, représente la principale source de financement de la Banque mondiale pour les 75 pays classés comme étant les plus pauvres de la planète. 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l'IDEA sont allouées aux différents pays sous forme de dons et de prêts à taux d'intérêt réduit pour le financement de leurs programmes de développement. Le groupe de la Banque mondiale regroupe aujourd'hui 5 institutions qui ont des missions, des clients et des modalités d'intervention différents. La Banque mondiale a été créée en 1944 sous le nom de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, la BIRD, avec pour mission de contribuer au financement des pays qui sont sortis économiquement dévastés de la Deuxième Guerre mondiale. La BIRD fournit désormais des prêts, des garanties, des produits de gestion des risques et des services de conseil aux pays à revenus intermédiaires et aux pays pauvres considérés comme solvables. L'Association internationale pour le développement a été créée plus tard, en 1960.
C'est la première fois que la Banque mondiale organise des forums régionaux pour recueillir les avis des organisations de la société civile, des chercheurs également, au moment de reconstituer ses ressources.
Tout à fait. Tous les 3 ans, les ressources de l'IDEA sont reconstituées, c'est-à-dire que les pays donateurs dans le monde allouent des ressources au fonds qui est ensuite réalloué par la Banque mondiale aux pays bénéficiaires. C'est donc un moment clé parce que l'enveloppe peut augmenter ou se réduire. Lors de la dernière reconstitution de l'IDEA en décembre 2021, ce sont 93 milliards de dollars américains qui avaient été mobilisés pour la période 2022-2025. L'affectation des ressources de l'IDEA est guidée par des orientations stratégiques qui font l'objet de consultations. Celles-ci avaient jusque-là été limitées au gouvernement des pays contributeurs et des pays bénéficiaires. Un sommet de chefs d'État africains avait eu lieu notamment à Nairobi en avril dernier. Cette année, la Banque mondiale a donc organisé des forums avec la société civile sur tous les continents, dont celui de Cotonou pour les 22 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Et Gilles, vous estimez qu'il est aujourd'hui essentiel que ces discussions sur le financement des économies africaines, sur le rôle des institutions financières, sortent des cercles fermés des décideurs et des économistes?
Absolument. De la même manière qu'il y a une exigence de réforme du Conseil de sécurité, il y a un impératif de réforme au niveau des institutions financières internationales. Cette dynamique a été enclenchée à la Banque mondiale qui a publié en janvier 2023 une feuille de route sur son évolution, The Evolution Roadmap. Les acteurs de la société civile des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre n'ont pas manqué de poser des questions et de donner leur avis sur ce qui devrait changer dans l'approche de la Banque mondiale. Le processus de reconstitution des ressources de l'IDEA s'achèvera les 5 et 6 décembre prochains à Séoul en Corée du Sud avec la réunion finale d'annonce des contributions des pays donateurs. Comme la Chine, l'Inde, le Chili, la Turquie, la Corée du Sud fait partie des 36 pays qui sont passés en quelques décennies de pays bénéficiaires de l'IDEA au statut de pays donateur. L'occasion de rappeler que c'est d'abord et avant tout la détermination des décideurs dans chaque pays du monde à améliorer les conditions de vie de leurs concitoyens qui fait la différence.
Ça fait débat avec vous, Gilles Yabi. Merci beaucoup. Et comme chaque semaine, on retrouve sur notre site les liens que vous nous proposez pour aller plus loin.
RFI Matin.
C'est une culture locale qui se développe pour réduire les importations. Notre reportage Afrique nous emmène au Cameroun où les autorités encouragent la filière de culture du riz à grand renfort d'investissement. La riziculture n'a pas attendu, ceci dit, pour s'installer. Elle existe depuis les années 60 à Yagoua, dans l'extrême nord du Cameroun, par exemple. À côté de la société publique qui gère la production, plusieurs petites unités de transformation ont vu le jour dans la ville. Elles survivent souvent grâce au travail des femmes pour le tri, le vannage, l'empaquetage, un travail essentiel mais mal rémunéré. Reportage dans une unité de production à Yagoua, Richard Onanena.
Sous un hangar à l'abri du soleil, souvent ardent de Yagoua, Cynthia, une jeune mère de 22 ans et ses collègues ne décollent pas les yeux des plateaux de riz posés sur leurs genoux. Avec leurs doigts habiles, elles retirent les impuretés et les mauvais grains de riz dans une ambiance bon enfant.
Dans le travail, là, on fait par jour, là, on nettoie d'abord la place, on met la bâche, on fait sortir le banc après le plat, on nous partage le sac, on commence à travailler. Oui, on trie le riz.
Cet après-midi, dans cette unité artisanale Riz Yagouna, depuis le matin, certaines ont déjà trié jusqu'à 2 sacs de 50 kg de riz. Cela vaut 1600 francs CFA, à peine plus de 2 euros.
Deux fois, on peut trier 1,5 sac ou bien 2, parfois 3 même, s'il y a le travail. Le sac peut payer 600, okay. Demi paye 300. Si c'est le brusure, on peut 400, le sac c'est à 800 par jour.
C'est à l'aide d'un gros ventilateur que le riz est vanné. Dernière étape avant l'empaquetage. Là encore, ce sont des jeunes femmes comme Narmada qui sont à l'œuvre.
On ventile pour que ça doit être propre. Ils trient là-bas, ils amènent ici. Après, on vend ça On vérifie encore si c'est propre, on met dans le sac 25 kilos, les 5 kilos, le 1 kilo et dans les 100 kilos.
Ça se passe bien par ici.
À Yagoua, où la culture du riz est pratiquée depuis les années 60, ce sont des métiers qui sont réservés exclusivement aux femmes. Faute de moyens, presque tout se fait à la main. John Chimitsu, chef d'unité de production.
Le travail de tri, de vannage, c'est spécifiquement les filles qui le font.
Dans cette zone. Vous produisez combien de sacs par jour?
Nous produisons environ 1 à 2 tonnes par jour. Une tonne, ça revient à 40 sacs de 25 kilos.
Ce riz de Yagoua est réputé pour son goût et son parfum particulier. Il est vendu un peu plus cher que le riz importé dans les grandes villes du pays. Richard Onanena, de retour de Yagoua. RFI.
Et à Yagoua comme à Yaoundé, il est bientôt 8h. Bientôt 7h en temps universel, le journal dans quelques minutes. Et d'abord, comme chaque dimanche, notre rendez-vous 100% création. C'était mardi, en clôture de la Fashion Week à Paris, un défilé de mode des créateurs francophones pour marquer aussi le coup d'envoi du Festival de la Francophonie. Parmi les créateurs et créatrices présents, il y avait Anissa Medeb et sa marque Anissa Aida. Des collections à l'esthétique japonaise enrichies par les savoir-faire de l'artisanat tunisien. Maria Afonso.
Pour une de mes collections récentes, le point de départ, c'était le motif aile d'hirondelle qu'on trouve beaucoup dans les céramiques du 19e siècle, donc on retrouve beaucoup dans la Médina. Très graphique, très géométrique. J'ai voulu faire dialoguer ça avec les traditions japonaises d'origami, de pliage et de kirigami, de découpe. J'ai beaucoup travaillé les découpes laser sur les vêtements et aussi les pliages.
Anissa Medeb, créatrice franco-tunisienne et fondatrice de la marque Anissa Aida.
Anissa, c'est éponyme, c'est mon prénom. Et Aida, c'est un hommage à ma grande sœur qui nous a quittés en 2010. Plus jeune, c'était moi qui adorais dessiner, faire des croquis. Mais par contre, elle me disait souvent « J'aimerais bien que tu dessines une robe comme ci, un chemisier comme ça, une saharienne. » Et on allait voir des couturières ensemble et on créait les vêtements. Donc on avait le projet de lancer la marque ensemble. Comme elle nous a quittés trop jeunes, j'ai décidé de lancer la marque pour elle.
Née à Paris de parents tunisiens, Anissa Medeb grandit entre Tunis et Paris. Passionnée de mode depuis son enfance, elle fait des études en design de mode entre New York et Londres. En 2016, elle visite Tokyo et tombe amoureuse du Japon. Inspirée par l'esthétique du pays du soleil levant et la Tunisie, la créatrice franco-tunisienne lance sa marque Anissa Aida en 2016. Une marque présente aussi bien à Tunis qu'à Tokyo. Anissa Medeb aime mettre au goût du jour le patrimoine tunisien avec ses pièces signatures. Celles-ci rendent hommage à ses racines familiales et revisitent le patrimoine textile en s'appuyant sur les savoir-faire de l'artisanat tunisien.
Le tissage artisanal de la soie, c'était surtout utilisé pour des vêtements traditionnels comme des jebas pour hommes. Il y a très peu de gens qui portent encore ces vêtements pour les cérémonies, donc les savoir-faire se perdent et ma mission, ça serait de contribuer à pérenniser ces savoir-faire.
Consciente de l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement, la créatrice collabore avec des artisans locaux.
Je vais allier les références des broderies traditionnelles de ma grand-mère avec la technique du sashiko, une technique de broderie japonaise. J'aimerais décliner ces motifs de manière plus graphique, les retravailler.
Retrouvez l'univers d'Anissa Aida sur RFI.fr, chronique 100% création et en podcast sur RFI Pure Radio.
Maria Afonso, bientôt 9h à Paris. Et un peu de musique. Avant le journal sur RFI, le groupe Zoufris Maracas, adepte des mélanges, et la chanteuse franco-brésilienne Luisa, le titre « Si c'était pire » dans la sélection du mois d'RFI.
C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. La regarder sourire, la regarder danser, et puis de temps en temps, la prendre dans mes bras, lui parler d'avenir, lui faire des enfants. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, Laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen de faire tomber les grands, de nous voir tous lever tous au petit matin, les filles et les tyrans. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi admirer les forêts millénaires peuplées d'orang-outans. La barrière de corail, les neiges éternelles, laissez courir géant. C'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi embrasser la beauté de la vie au milieu du néant. Laissez-moi m'enivrer, laissez-moi m'exalter, laissez-moi chérir les plaisirs de la vie que vous dites interdits pour mieux nous asservir. C'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi oublier que le monde s'effondre l'espace d'un instant. Laissez-moi respirer, laissez-moi rigoler, laissez-moi sourire. Je ne veux plus rien savoir de vos luttes de pouvoir, de vos sombres délires. Si c'était pire avant, que c'est bien pire après, alors en attendant, laissez-moi donc rêver qu'il existe un moyen pour arrêter le temps. À regarder marcher, à regarder grandir, et puis de temps en temps.
Si c'était pire, le groupe Zoufris Maracas, pour ceux qui aiment et qui se reconnaîtront. Bientôt 7h en temps universel et l'info qui continue dans une minute sur RFI.
Vous êtes chanteur ou musicien d'Afrique, des Caraïbes ou de l'océan Indien? Vous rêvez de développer votre carrière à l'international? Inscrivez-vous en ligne pour le prix Découverte RFI avant le 20 novembre.
Le lauréat ou la lauréate aura la chance d'être à l'affiche d'un concert diffusé sur RFI et bénéficiera d'une tournée en Afrique et d'une aide à la création.
Retrouvez toutes les étapes et actualités du concours sur prixdécouverte.com et sur Facebook, Insta et TikTok.
En partenariat avec l'Institut français.
Édition spéciale sur RFI, Arnaud Pontus.
C'est l'événement qui a fait basculer le Proche-Orient. Il y a un an, le 7 octobre 2023, le Hamas palestinien lançait une attaque terroriste massive en Israël. Depuis, l'État hébreu mène une riposte sanglante à Gaza. Le traumatisme, de part et d'autre, les conséquences régionales, le Liban, l'Iran. Édition spéciale avec nos correspondants et invités. Rendez-vous ce lundi, dès 5h, temps universel, sur RFI.